Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Retour en France avec, un mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, une émission spéciale avec le réseau France Bleu. Comment raconter un mouvement disparate et pluriel? Je suis également en compagnie du journaliste à l'Express Gérald Andrieux. Vous aviez publié en 2017 Le Peuple de la Frontière, 2000 km de marche à la rencontre des Français qui n'attendaient pas Macron. Aujourd'hui, un titre qui semble prophétique. Ce mouvement vous a-t-il surpris, Gérald Andrieux?
Je vais commencer par un oui et non. Non, parce que toutes les racines de ce mouvement étaient là, les problèmes de transport, de pouvoir d'achat, d'emploi. Oui, parce que j'étais pas persuadé que ça prendrait cette forme-là. J'étais persuadé plutôt que ça prendrait une forme de sécession civique, des gens qui se retirent du jeu politique, puisqu'on l'a vu, il y a eu 12 millions d'abstentionnistes, une abstention qui a été aussi énorme pendant les législatives. Donc on pouvait pas imaginer que ça prendrait cette traduction-là dans la rue.
En votre compagnie, on va faire le tour d'un certain nombre de lieux en France. Et tout d'abord, Sandrine Morin. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Vous êtes à France Bleu Saint-Étienne-Loire et on se demande, après avoir vu des images particulièrement violentes à Saint-Étienne, comment la ville, comment la région réagit après ces scènes.
Je pense qu'ici, à Saint-Étienne, il y a toujours une espèce de sidération. Après trois manifestations extrêmement violentes, il y a eu l'acte 3 le 1er décembre, l'acte 4 le 8 décembre, l'acte 5 le 15 décembre. Et vraiment, ça a été trois moments où la ville s'est totalement arrêtée, totalement paralysée, parce qu'il y a eu un déferlement de violence extrême, vraiment. On a utilisé, nous, sur notre antenne, des mots comme « guérilla ». Et je vous promets que pour les avoir vus et aussi avoir vu les dégâts après ces manifestations, ça ressemblait à ça. Il y avait de la guérilla urbaine dans les rues du centre-ville, à juste deux pas du marché de Noël ou dans le marché de Noël. Vraiment, c'était extrêmement violent.
Comment vous l'expliquez, Sandrine ?
C'est très difficile. Est-ce que j'ai le droit de pas l'expliquer? Est-ce que j'ai le droit d'essayer de comprendre que...
Vous avez tous les droits.
Non, mais ça doit être quelque chose de l'ordre de la foule. Parce que je vous parle de ces trois manifestations extrêmement violentes, mais il faut vraiment les dissocier de ce qui se passe sur les ronds-points. C'est pas du tout la même violence. Tous les ronds-points de la Loire et de la Haute-Loire étaient jusqu'à hier soir, parce que là, les campements sont en train de brûler les uns après les autres. On est en train de démonter
brûler,
là dans la nuit. Les gens sont en train de mettre le feu à leur propre rond-point. Ça se passe pas partout, mais il y a à peu près la moitié des ronds-points qui sont en train de brûler, qui brûlent cette nuit. Donc, il y a ce qui s'est passé sur les ronds-points, il y a ces micro-vies qui se sont installées sur les ronds-points. Et puis, le week-end, les gens qui travaillent, qui se retrouvent à Saint-Étienne pour manifester, pour dire la colère. Et trois manifestations qui se passent de manière assez différente, les trois. Elles se ressemblent pas, parce qu'il faut pas les mettre dans le même paquet, vraiment. La première, c'est clairement des petits jeunes, des 14-15 ans, qui, à la fin de la manif, viennent semer la pagaille, viennent semer l'horreur, enfin détruisent des vitrines, qui cassent tout. Donc là, il y a une manif qui vraiment dégénère en fin de cortège, où les gilets jaunes sont clairement débordés à la fin et se font surprendre par une violence qui vient d'ailleurs et qui n'est pas du cortège, vraiment. Et puis l'acte 4 le 8 décembre et l'acte 5, c'est un peu différent. On sent que le cortège change, on sent que il y a peut-être d'autres gens, que c'est pas forcément les petits jeunes. Vous voyez, comme si au fur et à mesure la foule légitimée ou comprenait que la violence pouvait apporter quelque chose. Donc vraiment, ça a été assez différent les trois fois, et c'est assez dingue à voir et à regarder et à analyser aussi. À Saint-Étienne, une cellule psychologique a été ouverte le 9 décembre parce que la mairie a eu tellement d'appels de gens choqués, de commerçants choqués, qu'il a fallu faire quelque chose pour que la parole se libère, pour que les gens, les commerçants notamment, puissent parler.
Ah oui.
J'en parlais encore avec des commerçants là hier, qui disaient, ce qui est le plus dur, c'est effectivement de voir des manifestants cagoulés, et là on comprend, on voit cette violence, mais de voir aussi la foule, c'est-à-dire de voir nos clients s'associer à ça et commencer à dévaliser un magasin d'optique et partir avec une montagne de lunettes parce que tout d'un coup, la foule se met à faire n'importe quoi. Et ça, c'est compliqué à vivre quand vous êtes commerçant et que vous voyez vos clients faire n'importe quoi.
Merci beaucoup Sandrine Morin depuis France Bleu Saint-Étienne. Gérald Andrieux, est-ce que cette rage, elle était perceptible quand vous avez fait votre tour de France ?
La colère était déjà présente il y a bien 2 ans et les raisons étaient inscrites déjà depuis 20, 30 ans peut-être dans le pays. Moi je suis très embêté qu'on commence par explorer le mouvement des Gilets jaunes à travers la violence. C'est un aspect qu'il faut voir, qu'il ne faut pas négliger, mais la difficulté de ce mouvement c'est que c'est un mouvement polymorphe et chacun y voit à peu près ce qu'il veut. Se concentrer sur la violence, c'est oublier les raisons initiales du mouvement, celles que j'ai vues moi-même sur le terrain et j'y reviens, des problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat, d'insécurité. Sous toutes ses formes d'ailleurs, l'insécurité la plus classique, l'insécurité physique, les problèmes de cambriolage qu'on peut connaître dans ces territoires-là, mais aussi l'insécurité culturelle, ce qu'on peut appeler l'idée qu'on ne reconnaisse pas nécessairement son pays.
On reviendra sur ces différents thèmes, c'était juste un hasard lié aux impératifs des uns et des autres qui nous a fait débuter par Saint-Étienne. On va d'ailleurs à France Bleu Besançon, bonjour Elia Bergel.
Bonjour.
Et alors, je crois qu'à Dôle, le mouvement, le premier rond-point en quelque sorte, s'est créé le 2 novembre, donc quasiment 15 jours avant le début du mouvement national, si j'ose dire.
Voilà, c'est ça. Ce qui est clair, c'est que ce sont en fait les Jurassiens qui ont été les précurseurs de ce mouvement et surtout les Dôlois qui ont donc le 2 novembre organisé une opération escargot de 500 véhicules dans le centre-ville de Dôle pour protester. À la base, c'était ça, pour protester contre la hausse des prix des carburants. Alors cette opération escargot, en fait, elle est née d'une initiative d'un particulier, d'un seul homme qui s'appelle Fabrice Schlegel, qui a créé un groupe Facebook intitulé De l'essence de la contestation. En une semaine, il a rapidement réuni 45 000 membres. Et en fait, à partir de ce groupe Facebook, il a lancé cette première opération escargot à Dôle. Là, il n'y avait pas encore trop de gilets jaunes. L'emblème, c'était la carotte. Puis, il y a eu d'autres opérations qui ont été lancées. Et c'est de cette opération escargot que les Dôlois, les Jurassiens, sont partis ensuite sur les ronds-points, plusieurs ronds-points dans le Jura, où il y a vraiment des sortes de... comment dire, on ne peut pas appeler ça une micro-société, mais presque des forums, des agora qui se sont créés où les gens ensuite sont restés jusque il y a encore quelques jours et comme le disait ma collègue de Saint-Étienne et Loire, là effectivement il y a eu des évacuations de ronds-points, mais les gens ont tout de suite transporté ce qu'il y avait sur les ronds-points pour les mettre ailleurs. Et quand je vous dis ce qu'il y avait sur les ronds-points, c'est pas 2-3 tréteaux, c'est vraiment une cahute quasiment en dur avec à l'intérieur une gazinière, une télé, un espace bar qui a été construit, on ne sait pas trop comment, une cheminée qui a été installée là, on ne sait pas trop comment, mais qui fonctionne. Et voilà, c'est toutes ces micro-sociétés en fait qui se sont créées un peu partout dans le Jura, mais évidemment aussi ailleurs en Franche-Comté, dans le Doubs et en Haute-Saône, et qui perdurent et qui, pour l'instant, j'ai l'impression, continuent de perdurer même plus d'un mois après le début.
Et je crois qu'il y a eu une MJC pour les Gilets jaunes à Vesoul.
Alors ça, c'est la maison des Gilets jaunes qui a été créée à Vesoul en début de semaine. En fait, une des représentantes des Gilets jaunes de Vesoul qui a lancé cette association intitulée qui s'appelle la Maison des Gilets jaunes. Alors l'asso existe officiellement, les statuts ont été déposés en préfecture, il y a un local qui va être utilisé dans la ville, il va y avoir dans cette association un avocat qui va travailler pro bono gratuitement pour éventuellement aider les Gilets jaunes qui auraient des ennuis avec la justice. Il faut rappeler que Céline Roy, donc celle qui est la présidente et aussi la fondatrice de cette association, elle a fait de la garde à vue le lundi dernier, elle a pris 2 mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende pour le blocage d'un train SNCF. C'était l'entrave à la circulation d'un train il y a à peu près une quinzaine de jours.
Donc cette sociabilité qui s'est créée sur les ronds-points, vous ne la voyez pas du tout disparaître aujourd'hui dans le Jura, Elia Bergel ?
Ah, pas du tout, ni dans le Jura, ni dans le Doubs, ni en Haute-Saône. En fait, moi, ce que j'ai remarqué et ce que d'autres reporters ici à France Bleu Besançon ont remarqué, c'est que les gens, ces gilets jaunes, ils militent pour les revendications qui sont maintenant connues de tous, mais il y en a aussi beaucoup qui vont sur ces ronds-points, je pense, à la recherche d'une certaine sociabilité, à la recherche d'un lien social qui parfois dans la ruralité s'est abîmé, s'est ténu jusqu'à rompre. Et il y a beaucoup de gens qui vont sur les ronds-points simplement pour parler, pour échanger, pour rencontrer du monde, pour simplement avoir changer leur leur quotidien qui parfois était un petit peu terne, un petit peu morne et parfois un petit peu seul, faut bien le dire, dans les milieux ruraux.
Merci beaucoup Eddy Abergel. Pour France Bleu Besançon, Gérald Andrieux, une réaction.
Voilà peut-être pourquoi il faut se réjouir de ce mouvement, puisque depuis que moi je suis rentré de ma longue marche à travers la France, j'ai été reçu par des tas de politiques et ils m'ont tous demandé mais que faire pour cette France-là ? Et je leur disais en fait ce qu'il manque, c'est étonnant, mais c'est des lieux de rencontre. Il n'y a plus d'agora, il n'y a plus d'espace où l'on se croise. Et c'est pour ça qu'on se méfie aussi de son voisin, puisque les services publics fermant les uns après les autres, on ne se croise même plus dans une queue au bureau de poste, on ne se croise plus dans un commerce de proximité parce que il a fermé suite à l'ouverture d'un supermarché en périphérie de la commune. Grosso modo, cette sociabilité, elle s'est recréée sur ces ronds-points, et c'est pour ça que limiter le mouvement des Gilets jaunes à la violence qui est là, qu'il faut bien voir évidemment, n'est pas suffisant. C'est aussi un peuple qui refait de la politique, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire discuter avec son voisin, échanger sur son quotidien et envisager un avenir en commun.
Cet avenir en commun et cette situation sur place. Paul Ferrier, bonjour.
Bonjour.
De France Bleu à Dax. Alors, vous avez passé de France Bleu Gascogne, pardon. Vous avez passé de nombreuses journées sur un rond-point. Qu'est-ce que vous avez pu observer, Paul Ferrier ?
Bah, en fait, on a décidé de s'y installer, c'était après l'acte 3, après le 1er décembre, avec pour but d'abord d'essayer de comprendre qui sont ces gilets jaunes qui se sont installés sur ce rond-point, qui y dorment, qui y refont le monde au bord du feu. On n'a pas vraiment trouvé de réponse parce que c'est très polymorphe. On a certes des gens qui sont là parce qu'ils sont en colère, mais ensuite c'est très différent politiquement. Dans leur rôle social, ce qu'ils font dans la vie, c'est extrêmement différent. On voulait aussi entendre leurs aspirations, là aussi extrêmement différentes, difficile d'en mettre une sur eux. Puis on a aussi voulu faire notre rôle de proximité en y allant et puis leur expliquer notre métier parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une crise avec les médias. On s'est dit que c'était quand même important d'aller expliquer ce qu'on faisait, d'essayer d'établir
une crise avec les médias, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance très 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 claire. Moi, j'ai rarement travaillé comme ça en arrivant sur un rond-point. Le premier jour, ça s'est plutôt bien placé. Il a fallu d'abord que j'arrive sans micro, que je m'explique, que j'explique ce que je voulais faire, que les gens tous disent oui, on est d'accord. Le soir même, quand je suis parti, il y a eu un vote entre les gilets jaunes qui était très partagé sur notre présence sur place. Et quand je suis revenu le lendemain, ils avaient créé. Alors c'est particulier parce qu'ils veulent créer une politique de manière différente, mais ils avaient créé un service communication sur le rond-point, et donc les gens du service communication entre guillemets sont venus me voir et m'ont dit voilà, on a voté hier et on a trouvé la solution pour que vous puissiez rester avec nous. Il faut que on puisse écouter vos reportages en amont et qu'on puisse vous valider ou pas si c'est diffusable ou pas sur votre antenne. Ce qu'on a bien sûr refusé en leur expliquant qu'on pouvait comprendre que si on revenait le lendemain et qu'ils n'avaient pas aimé ce qu'on avait fait, ils avaient le droit de plus avoir envie de nous parler, et ça on pouvait le comprendre, mais qu'il y avait un contrôle a priori, ça c'était pas possible. Et puis le lendemain ils s'en sont excusés, et donc on s'est rendu compte comme ça, en restant avec eux toute cette semaine-là sur le rond-point, de finalement deux choses. Ce que disait votre invité, c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire qu'il y a une réappropriation du politique, ces gens-là se mettent autour du feu, et de la politique avec un grand P, parce qu'ils refusent absolument, quand je leur dis « ouais, vous faites de la politique », ils disent « non, parce que tout de suite pour eux la politique c'est politique partisane ou politique politicienne, et pourtant ils passent leur nuit, leur journée à refaire le monde, à expliquer comment est-ce qu'ils pourraient vivre ensemble, chercher de la justice sociale. Et puis en même temps, il y a quelques maladresses, parce qu'ils se sont excusés d'avoir demandé ça le lendemain. Ils n'avaient pas vraiment compris la portée de leur demande. Et par exemple, il y a un exemple assez fort, je trouve, dans leurs revendications. Ils en ont mis 18. Ils ont demandé, par exemple, l'inéligibilité pour tous les élus mis en cause dans des affaires pas condamnées, mais mis en cause. Et ça, je pense que c'est aussi de la maladresse.
Paul Ferrier, on vous écoute effectivement, et Gérald Andrieux voulait réagir. Gérald Andrieux qui a fait 2000 km de marche à la rencontre des Français.
J'entends cette méfiance à l'égard des médias. J'y étais moi-même confronté pendant ces 5 mois de marche. Je la trouve totalement légitime. Je me suis pris des sérieux coups dans la gueule, moi, en arrivant, pas physique, mais verbaux, les coups. Cette méfiance, elle est légitime parce que les journalistes, les médias, on a une responsabilité. Cette France-là, on n'a pas voulu la voir, et pourtant, elle était là, sous nos yeux. Et quand
Comment
on voulait
vous
la voir.
Expliquer cette défiance?
Parce que justement, on les a souvent présentés comme des cutéreux qui pensaient mal, se comportaient mal, pensaient mal, votaient mal même. C'était, on l'a écrit, la France moisie, la France rance. Je veux dire, là, c'est un...
On l'a écrit, certains l'ont écrit.
Oui, c'était un on générique. Je voulais vraiment que je cite les noms. C'était la France rance, la France moisie dans pas mal d'éditos.
C'était Solers, par exemple.
Oui, par
si
exemple.
Ma mémoire est bonne.
Et effectivement, votre mémoire est très bonne. Et tout ça a un peu infusé. On ne regardait pas cette France-là. Et les politiques, d'ailleurs, ne regardaient pas cette France-là. Par exemple, la gauche avait choisi de défendre certaines populations plutôt que d'autres, pensant que l'empathie était une donnée...
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, référence à la note de Terra Nova, il y avait une stratégie électorale qui consistait à s'adresser à différentes minorités plutôt qu'à un peuple dans son ensemble et dans son intégralité.
Une note très controversée qui expliquait que la gauche, de toute façon, avait perdu le peuple et qu'il valait mieux s'intéresser aux classes moyennes. Paul Ferrier, vous l'avez senti, ce reproche donc de faire des caricatures qui étaient donc renvoyées comme ça à la figure des journalistes?
Oui, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des critiques légitimes. Juste pour dire que nous, ces gens-là, à France Bleu, puisqu'on est en proximité, ben on les voit et depuis toujours, on leur donne la parole. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois des critiques justifiées. Il y a pas mal de fantasmes aussi. Juste pour l'anecdote, on m'a beaucoup parlé. Enfin, j'étais avec deux gilets jaunes qui m'ont posé la question par rapport au duplex de France 3 qui avait été coupé pour une cause de raccrochage national. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, et c'était monté en épingle en disant qu'il y avait eu censure de la part de France 3. Et donc, juste pour leur montrer, j'ai fait un petit atelier où je leur ai dit, voilà, vous avez 20 secondes pour me raconter votre journée d'hier, et à 18 secondes, je vous coupe parce que il faut rendre l'antenne. Ils se sont rendu compte que c'était compliqué, et ce que je regrette, et j'avoue que j'étais assez en colère, c'est que derrière il y a eu cette affaire de la pancarte de France 3 et qui est un peu balayée d'un revers de main.
Une pancarte qui a été modifiée à la palette graphique où il y avait, je crois, un Macron démission, et il y a uniquement le nom de famille qui est demeuré sur la pancarte. Justement, il nous reste 2 minutes avant 8h. Paul Ferrier, sur le plan politique, on dit donc que cela a créé de la politique, mais est-ce que ces gilets jaunes que vous avez vus sur les ronds-points, ils avaient des étiquettes politiques, comment votaient-ils?
Alors ça, c'est un sujet qu'ils ne voulaient pas aborder, parce que en fait, comme ils ont des étiquettes politique, forcément, on est tous un petit peu politisés. C'est une raison de discorde, j'ai envie de dire, sur les ronds-points, parce qu'on pouvait avoir des gens. J'ai croisé un monsieur qui avait voté Emmanuel Macron lors de la présidentielle, d'autres qui étaient plus penchants pour la France insoumise, d'autres qui étaient plus pour le Rassemblement national. Mais le problème, c'est que dès qu'ils en discutent de ça, ça cause des conflits internes. Donc, on évite absolument le sujet, et surtout, on veut qu'il n'y ait pas, mais quasiment de manière artificielle, d'étiquette politique sur tout ce qu'on est en train de dire. Quand je leur dis, mais vous êtes en train de faire de la politique au bord du feu, ils refusent ça absolument. Et pourtant, en discutant avec eux, ils disent, ah bah oui, finalement, mais la politique avec un grand P, c'est pas de la politique politicienne partisane. Il y a un vrai conflit avec ça, effectivement.
Merci beaucoup, Paul Ferrier. Je rappelle que vous êtes en direct depuis France Bleu Gascogne. Gérald Andrieux, le vote du peuple de la frontière, vous avez dit tout à l'heure, il vote mal.
C'est ça qu'on lui reprochait à l'origine. Le fameux vote mal, c'est le vote Front National. Mais si on regarde dans cette élection, le vote le plus préoccupant, il faut bien le dire, c'est l'abstention. C'est 12 millions d'abstentionnistes au second tour, 3 millions de votes nuls, 1 million de votes blancs. On l'a comme oublié, c'est un peu ça.
Abstention, pourquoi? Parce que on n'attend plus rien du politique?
Mais non, parce que justement, cette présidentielle, on nous a expliqué que c'était pas véritablement une élection. Je dis pas là que Macron n'est pas un président qui a été élu de façon légitime, mais le premier tour n'a pas eu lieu véritablement, puisqu'il a été embolisé par l'affaire Fillon. Et le deuxième tour, il s'agissait de chasser le diable ou non, le diable étant Marine Le Pen. Donc, on comprend que finalement, ça soit dans la rue que ça se passe, puisque l'élection n'avait plus grand sens.
Gérald Andrieux, le peuple de la frontière, aux éditions du Cerf. On continue dans quelques dizaines de minutes, aux environs de 8h20, à faire ce tour de France en compagnie du réseau France Bleu, une matinale exceptionnelle, donc France Culture, France Bleu. En attendant, il est 8h sur France Culture. Suite de la matinale exceptionnelle que nous consacrons avec le réseau France Bleu à ce portrait de la France quelques semaines après le début de la crise des Gilets jaunes. Je suis en compagnie de Gérald Andrieux. Il signe Le peuple de la frontière, un périple dans la France qui n'attendait pas Macron. C'est le sous-titre de votre livre, Gérald Andrieux. Et nous partons immédiatement à Aix-en-Provence. Bonjour Thibault Maisonneuve.
Bonjour Guillaume.
Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Qu'est-ce que vous observez, Thibault?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quasiment plus de barrages filtrants. Il y en a encore un ce matin et puis une zone artisanale qui est bloquée. Que les Gilets jaunes, évidemment, détestent qu'on évoque même l'idée d'un essoufflement. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a évidemment une accalmie ici aussi en Provence, qui est une région pourtant contestatrice. On y reviendra. Il y a moins d'occupation de péage. Il y a moins de manifestants aussi à Marseille. On l'a constaté samedi que les semaines précédentes. Mmh. Et puis, au fond, le mouvement des Gilets jaunes a muté avec trois catégories de manifestants. Il y a d'abord celles et ceux qui veulent d'autres formes de protestation. C'est très notoire que de bloquer des routes, des ronds-points, des péages avec des tensions évidemment très fortes, mmh, avec des automobilistes quand ça ne dégénère pas. Hein. On rappelle qu'il y a quand même eu un gilet jaune qui a été tué à Avignon et puis un autre qui a été gravement blessé un peu plus bas sur la 8 récemment. Ces gilets jaunes sont favorables au cahier de doléances, c'est très clair. Porte un discours politique sans vouloir d'ailleurs pour autant se lancer en politique, ni être allé, on pourra en reparler, dans un bureau de vote à la présidentielle ou aux législatives, mais il porte une sorte de victoire symbolique après les concessions d'Emmanuel Macron. Il cherche à se structurer beaucoup sur les réseaux sociaux, à bloquer toute réforme, et ces gilets jaunes-là sont extrêmement réactifs et peuvent se mobiliser très vite et donc entraver évidemment l'action de l'exécutif. Il y a aussi les manifestants qui se radicalisent dans leur posture, leur discours, parce qu'il y a beaucoup de fatigue depuis un mois, que les gilets jaunes, parce qu'ils travaillent, sont plus forcément sur les barrages, et puis qu'il y a eu des actions violentes qui ont été menées. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'incendies de cabines du côté de Manosque, du côté de Bandol encore, avec des gilets jaunes qui se revendiquent d'ailleurs comme gilets jaunes, même s'ils ne sont pas représentatifs du mouvement. C'est dire s'il y a des débordements de plus en plus fréquents, ce qui crée d'ailleurs en plus un fossé avec celles et ceux qui étaient solidaires au début et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et ces gilets jaunes sont ulcérés, ils sont tendus et ils parviennent ni à sortir du mouvement, ni à le transformer, en promettant d'ailleurs assez clairement des actions violentes. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie, plutôt des retraités d'ailleurs, pour la plupart, qui tiennent encore quelques péages, qui continuent à laisser passer des automobilistes, qui sont là dès 7 heures, qui reçoivent des automobilistes, des croissants, du café, du bois pour se réchauffer, c'est assez bon enfant. En tout cas, chez tous ces gilets jaunes que France Bleu Provence rencontre, il y a effectivement un rejet très clair d'Emmanuel Macron, de la personne d'Emmanuel Macron, et on est d'ailleurs parfois à la limite du rationnel, et aucun ne veut être en tout cas assimilé à un parti politique.
Alors justement Gérald Andrieux, parce que Gérald, votre livre portait comme sous-titre « La France qui n'attendait pas Macron ». Qu'est-ce que ça signifie rétrospectivement et par rapport à ce que vient de dire Thibault Maisonneuve de France Bleu Aix-en-Provence?
À l'époque où j'ai traversé la France, il ne connaissait pas Macron. Donc il n'y avait pas nécessairement d'hostilité à son égard. En revanche, il considérait que c'était un candidat qui étaient étrangers à leur quotidien, et à l'inverse, la vie que menait Emmanuel Macron et le projet qu'il portait pour la France leur était totalement étranger aussi. C'est-à-dire cette idée de se mettre en marge, d'être dans la mobilité, d'appartenir en quelque sorte à une société liquide qui flotterait au-dessus de la planète, un petit peu comme nos élites, même si l'expression est un peu tarte à la crème, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Eux sont ancrés dans des territoires, et on l'a bien vu avec l'histoire de ces 80 km/h. C'était une forme d'injonction contradictoire. On leur demande de se mettre en mouvement et dans le même temps, on leur demande de ralentir.
Thibault Maisonneuve, sur la personne du président de la République, qu'est-ce que vous avez entendu ?
Ce que je vous dis à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, il est en quelque sorte victime du train de réforme qu'il a mené, avec en plus une spécificité quand même régionale extrêmement forte ici, parce que vous le savez, historiquement, viscéralement même, la Provence fait partie, et Marseille évidemment, de ces régions qui, par principe, on va dire, jugent suspecte une décision, une mesure qui est portée par un pouvoir centralisé, incarné, on l'a beaucoup dit, par la personnalité donc jupitérienne d'Emmanuel Macron, et donc, vous avez compris, forcément, ce sont des Parisiens. Donc forcément à Marseille c'est suspect, et c'est même d'ailleurs un sport national ici en politique. Ensuite vous êtes dans le pays du tout bagnole ici, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que le budget consacré à la voiture est le plus élevé, 6200 euros par an. Donc quand des gilets jaunes réclament dès le 17 novembre un gel des taxes sur le carburant, ils trouvent immédiatement un écho. C'est autour de Marseille qu'il y a le plus d'embouteillages en France, devant Paris. La région est traversée par les autoroutes, et l'enjeu ici de la métropole marseillaise comme de la métropole toulonnaise d'ailleurs, ce sont les modes de déplacement alternatifs. Il y a des voies réservées aux bus qui sont en train d'être aménagées, mais avec beaucoup, beaucoup d'années de retard. Il y a la SNCF qui détient le triste record des trains en retard, déprogrammés, annulés, qui s'est lancé dans des travaux de rénovation. Et puis, il est question aussi de faire une gare Saint-Charles souterraine à Marseille. Mais c'est, même si c'est une priorité nationale, ce ne sera pas avant 2030.
Merci beaucoup, Thibault Maisonneuve de France Bleu, Aix-en-Provence, Gérald Andrieux. Les questions donc d'automobile, parce qu'à Paris, parfois, on avait un peu oublié que les Français avaient des voitures.
Oui, parfois deux, trois par famille, ça pèse sur le budget. Pour une raison simple, 90% des habitants du périurbain quittent leur commune pour aller travailler. Et les gens que j'ai rencontrés parcourent chaque jour 20, 30, 40, 50, parfois même 100 kilomètres, aller puis retour pour aller travailler et rentrer chez eux ensuite. La voiture, quand on parle de tout automobile, on a l'impression que c'est un choix. Là, c'est un choix qui leur est imposé, puisqu'ils ont choisi non pas de vivre dans ces territoires, ils y sont parce que le foncier et l'immobilier il y est peu cher. Donc, fatalement, ils se retrouvent à devoir utiliser leur bagnole. Et pour le coup, ça, je le pressentais, que l'augmentation des taxes allait mettre en colère cette partie-là de la France. On estime que, grosso modo, par voiture, ça représentait 250 à 350 euros de plus par an, l'augmentation de ces fameuses taxes. Ce qui est considérable. C'est considérable.
Nous partons en Savoie. Sarah Gillement, bonjour.
Bonjour.
Vous, Sarah, vous avez été au contact de ces gilets jaunes, vous avez vu les différentes opérations et vous avez également compris et vécu la difficulté de faire son travail de journaliste dans cette crise-là.
Oui, travail difficile puisque, en fin de compte, et vous le disiez hein, dans toute cette intervention, qu'en fait les gilets jaunes sont méfiants vis-à-vis des médias et même pour les médias de proximité. La difficulté, c'est comment déjà avoir l'information, la bonne information, et puis comment la traiter. Nous, on parle de ce mouvement à France Bleu Pays de Savoie tous les jours depuis le début du mouvement, donc depuis l'acte 1 le 17 novembre, avec énormément de témoignages, de reportages forts. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est vrai qu'il y a une méfiance. Alors mes collègues hein, de France Bleu le disaient, il faut prendre énormément de temps pour leur parler. Et puis parfois, certains gilets jaunes sont violents. Je veux dire, depuis le début de la contestation, beaucoup de journalistes se sont fait insulter. Moi-même, je me suis fait bousculer avec des menaces. Donc c'est très compliqué, même pour les auditeurs de France Bleu Pays de Savoie. On a eu beaucoup de messages nous disant à la fois que parfois on parlait trop des gilets jaunes et puis de l'autre côté, on aurait perdu des auditeurs parce qu'on n'allait pas assez dans le sens des gilets jaunes. Donc c'est très compliqué de pouvoir faire son travail dans ces conditions, même pour une radio de proximité.
Aujourd'hui, comment est la situation sur les ronds-points? La situation est paisible?
La situation est paisible en pays de Savoie. On le voit même ce matin, les ronds-points sont évacués par les gilets jaunes. Il y a les forces de l'ordre qui sont en ce moment même en train d'intervenir. Et puis, tout se passe dans le calme. Alors, mes collègues le disaient aussi, c'est que en fait, ils vont se déplacer d'un rond-point à un autre terrain. Ils vont installer leur campement ailleurs. Mais tout se passe dans le calme, puisque en pays de Savoie, en fin de compte, les rassemblements se sont plutôt faits sur des ronds-points, sur des péages, mais pas en ville. C'est aussi pour ça que le mouvement n'a pas vraiment échappé aux gilets jaunes. La seule chose notable, c'était pour l'acte 5 qui était un peu inédit, donc samedi dernier. C'était la première fois qu'un appel avait été lancé à tous les gilets jaunes des Pays de Savoie pour un rassemblement dans le centre-ville de Chambéry. Et au plus fort de la journée, il y avait un millier de manifestants. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'en tête de cortège, il y avait des membres de Bastion Social. Donc ce groupuscule d'extrême droite qui a un local à Chambéry depuis cette année. Mais ça a été très vite dénoncé par les gilets jaunes référents, on va dire, sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a beaucoup de manifestants qui se sont désolidarisés parce que dans les rangs aussi, il y avait un mélange de personnes, une pluralité. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait des syndicalistes, le Parti communiste, des militants pour la marche pour le climat, etc. Et du coup, toutes ces personnes se sont un peu désolidarisées de cette tête de cortège. Et en fin de compte, ça s'est bien passé dans le centre-ville puisque les manifestants ont décidé aussi d'éviter le marché de Noël qui est installé en plein cœur. Il n'y a pas eu de casse dans les rues commerçantes. On est vraiment bien loin des violences qu'on peut voir à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Marseille. Voilà, tout se déroule plutôt dans le calme puisque à chaque fois, il y a une négociation entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Ils comprennent bien que de toute façon, c'est contre-productif d'être violent. Et c'est pour ça que tout se déroule plutôt bien. Alors, voilà, à savoir si... dites-moi.
Non, non. D'aucun mouvement paisible, allais-je
dire. Un mouvement... Oui, un mouvement qui est paisible. Alors, évidemment, il y a quelques tensions. Hein. Samedi dernier, il y a eu quelques arrestations, des gens en garde à vue, mais tout ça reste en marge. Après, ça n'enlève rien à la colère des gens. Ils sont toujours autant mobilisés, beaucoup évidemment sur Facebook. Là, par exemple, la dernière idée qui avait été lancée pour continuer la contestation, elle date d'hier, c'est de bloquer les frontières en France. Eh bien, même là, on se rend compte que les Gilets jaunes en Pays de Savoie sont contre cette idée. L'idée, ça serait de bloquer les frontières avec l'Italie, la Suisse, mais la plupart des manifestants disent que ça serait s'opposer à la population, que ce serait se mettre les Français à dos, comme ils le disent. Donc, je crois aussi que les Gilets jaunes ont envie de fêter Noël avec leur famille. Du coup, ils pensent pas que ce soit la bonne idée. Peut-être continueront-ils sur des opérations péage gratuits comme ils l'ont fait depuis le début.
Vous restez avec nous, Sarah Gidemand de France Bleu, Pays de Savoie. Le peuple de la frontière, c'est le titre de votre livre, Gérald Andrieux. Pourquoi le peuple de la frontière? Puisque Sarah Gidemand vient de parler de cette idée de bloquer la frontière.
Alors moi j'ai choisi de parcourir la frontière de Dunkerque à Menton, c'est 2000 kilomètres, pour une raison simple, c'est que c'est un objet politique, éminemment politique la frontière. Et je considérais que tous les sujets de la présidentielle passaient ou allaient passer par la frontière en quelque sorte. Les questions de désindustrialisation, la question européenne, la question migratoire, etc.
Vous les avez découverts par exemple en Savoie à Modane, puisque Modane c'est assez typique de cette configuration-là.
Oui, parce que c'est une ville importante pour l'immigration italienne dans son histoire. C'était une gare internationale. C'est par là que transitaient beaucoup de migrants italiens au siècle dernier et beaucoup de marchandises aussi. C'est en quelque sorte l'incarnation même de la ville frontière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette commune, il y a une sorte de regret de la frontière puisqu'elle permettait en fait de dialoguer avec son voisin italien. Ce qui est un paradoxe, nous dira-t-on, mais en fait pas du tout. La frontière, ça permet de se définir soi-même et de définir qui est autour. Qui est le voisin, qui est l'autre derrière cette limite.
Et oui, puisque c'est une ville qui du coup a perdu beaucoup d'emplois, 1500 emplois est supprimés depuis une trentaine d'années, avec une situation là aussi assez disparate. Sarah Gidemand, vous qui êtes à France Bleu, Pays de Savoie, entre la Savoie et la Haute-Savoie.
Oui, il y a des différences, notamment en termes de population. La Haute-Savoie est deux fois plus peuplée. Il y a aussi une richesse qui est différente. Et on voit que ces difficultés sont présentes chez les habitants. Il y a une tension comme ça qui s'installe parce que je crois qu'il y a aussi ce sentiment de ne pas être écouté. Oui, c'est un sentiment d'abandon en fin de compte. Et puis mes collègues le disaient très bien. Hein, ce sentiment où on a l'impression que toutes les décisions sont prises à Paris. Les gens ici habitent dans la vallée, en montagne. Il y a une spécificité aussi qui est propre au territoire des Pays de Savoie. Et puis en Rhône-Alpes, je vais parler des loyers en ville qui sont excessivement chers. Donc les gens s'installent plutôt en périphérie, plus loin. Sauf qu'on va revenir au début des revendications des Gilets jaunes. Ils prennent la voiture. Ils prennent la voiture. Donc mon collègue d'Aix-en-Provence disait que c'était le tout voiture là-bas. Mais ici aussi, c'est évidemment, ils prennent la voiture tous les jours puisque il y a aussi des collègues qui sont des habitants qui sont frontaliers, donc qui travaillent tous les jours en Suisse, en Italie, ça leur coûte cher. Quand on leur dit qu'il faut prendre des transports alternatifs, tout ça, ils n'y croient pas forcément. Eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi on leur imposerait ça, alors que eux, tous les jours, ils doivent faire 50, 60, 80 kilomètres par jour pour aller déposer les enfants, pour aller au travail. Voilà, c'est ce sentiment d'abandon aussi. Et c'est aussi pour ça que le mouvement a pris de l'ampleur ici. Je veux dire, tout est né d'une étudiante qui a lancé le mouvement sur Facebook parce qu'elle n'arrivait pas à faire son plein. Et il y a eu un écho incroyable sur les deux Savoie, puisque tout le monde s'est retrouvé dans ces mots.
Merci beaucoup Sarah Gidemand pour France Bleu Pays de Savoie. Et on part immédiatement à Lille. Bastien Deceninck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Bleu Nord. On continue ce tour de France sur France Culture, mais avec le réseau des France Bleu. Qu'avez-vous observé à Lille et autour de Lille avec donc cette mobilisation des Gilets jaunes, Bastien ?
Alors, ce qui était assez frappant, en fait, ici, dans la région, c'est qu'il y a eu un peu deux types de mobilisation. Il y a eu, d'un côté, des mobilisations dans les grandes villes, comme Lille, comme Dunkerque, comme Boulogne, où là, on avait vraiment une mobilisation qui était autour des zones commerciales, qui était aussi un peu des blocages sur les autoroutes, des opérations barrières levées sur les péages. Et puis, des défilés, il y a quelque chose qui était assez frappant, justement, on parlait des manifestations dans les grandes villes, c'est qu'à Lille, il y a eu un rassemblement qui a eu lieu tous les après-midi, chaque samedi, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, mais à chaque fois ce sont des rassemblements, des manifestations qui sont vraiment bon enfant, qui sont vraiment dans la bonne ambiance. Alors il y a quelques débordements, mais qui sont vraiment sur les fins de cortège au moment où ça se disperse, mais on n'a pas eu ces scènes d'affrontement vraiment direct entre des manifestants, des casseurs et des forces de l'ordre. C'était vraiment à chaque fois vraiment très bon enfant dans les cortèges. Et puis on a eu aussi beaucoup de rassemblements, en fait, nous, dans la zone du bassin minier. C'est cette zone qui va en fait de Béthune et qui passe par Lens, Hénin-Beaumont, Douai, qui va jusqu'à Valenciennes, jusqu'à la Vénois, où là la mobilisation aussi a été très très forte, parce que justement ça fait partie de ces territoires, on en parlait à l'instant, où on retrouve vraiment ce fort sentiment d'abandon. C'est un endroit où le chômage atteint en moyenne 15%, ça va jusqu'à 20% dans certaines zones. Ce sont des endroits où les transports en commun sont beaucoup moins développés, où on se retrouve justement dans cette situation où, les gens prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix, finalement. Moi, je me souviens d'un artisan qui m'expliquait, par exemple, que lui, il a une camionnette et en fait, il aimerait bien changer de camionnette, pour lui et moins, mais les camionnettes qu'on lui propose ne roulent qu'au diesel. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à la taille de camionnette qu'il a besoin. Donc, il est coincé, il est obligé de rouler au diesel, et donc forcément, cette augmentation des carburants, ce qui a mis le feu aux poudres. Alors, il n'y a pas que ça sur la suite, mais c'est vraiment la hausse de carburant au début qui a démarré le mouvement. Et qui a entraîné le reste. Alors, je vous parlais du bassin minier, du fort sentiment d'abandon, et on voit vraiment en fait une corrélation entre les endroits où la mobilisation a été très forte et là où on parlait de Marine Le Pen tout à l'heure, là où Marine Le Pen a fait ses plus hauts scores au premier tour de la présidentielle l'année dernière, avec des scores qui dépassaient les 40%. Ce qui ne veut pas dire que les gilets jaunes qui sont là sont tous des militants du Front National, du Rassemblement National. Pas du tout. C'était vraiment très varié, ce qu'on a retrouvé un peu ailleurs, mais il y a vraiment une vraie corrélation entre ce sentiment d'abandon qu'on a et les scores qui ont été faits par Marine Le Pen l'année dernière.
Et justement, la question du référendum d'initiative citoyenne, puisqu'on parle politique.
Alors ça commence à arriver, on en entendait un petit peu parler au début, c'était pas vraiment dans les revendications, et en fait ça commence à prendre maintenant, un peu comme partout ailleurs sur le territoire finalement, où ça arrive effectivement dans les revendications, dans les manifestations. Il y a aussi eu un changement qui a été assez frappant, c'est que le mouvement vraiment sur les premiers jours se voulait totalement hors syndicat, hors parti politique, et de plus en plus, maintenant qu'on avance, on commence à voir arriver, là je pense à la dernière manifestation à Lille, où par exemple il y avait des syndicalistes qui avant participaient au mouvement en tant que citoyens et qui aujourd'hui se revendiquent vraiment comme syndicalistes. Il y avait par exemple dans la dernière manifestation à Lille des drapeaux de la CGT qui sont apparus, des choses qu'on ne voyait pas au début du mouvement par exemple.
Une nouveauté effectivement, une réaction Gérald Dandrieu sur le référendum d'initiative citoyenne.
Alors sur le référendum, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas que ça soit proposé ou demandé par les Gilets jaunes, mais c'est plutôt la réaction des commentateurs et des responsables politiques. Je trouve que c'est terriblement infantilisant de n'avoir aucune confiance dans ce peuple dont ils tirent pourtant leur suffrage. Et on nous explique qu'on s'apprête à connaître le pire si on met en place ce référendum-là. Et on peut se poser la question légitimement, qui est le plus démocrate dans cette histoire? Parce que finalement, les Français sont pas revanchards. Ils ont testé le référendum, c'était en 2005, contre le traité constitutionnel européen, et pourtant ce traité qu'ils avaient chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre déguisé en traité de Lisbonne. On les a en quelque sorte trahis, et ça revient dans les discussions. Et pourtant, même s'ils se sentent trahis, ils revendiquent un nouveau référendum. On peut se demander qui sont les plus démocrates dans cette histoire.
Comment vous voyez les choses, Bastien de Seninck, à France Bleu Nord?
Sur le référendum
sur le fait de s'être senti trahi, avec donc un décalage entre des votes, par exemple le vote au référendum sur la Constitution européenne et puis la situation actuelle, la volonté donc de vouloir mieux être représenté, ou alors de prendre des décisions directement.
Ben, c'est quelque chose qui se retrouve, on en parlait, hein, dans ce sentiment de rejet un peu global de la classe politique et des scores qui sont faits par le Rassemblement National ici dans la région. Après, c'est voilà, je vous dis, c'est vraiment le tout début de ces demandes-là. Je me rappelle plus exactement les scores qui avaient été faits effectivement sur le référendum de 2005, mais à mon avis, de toute façon, ils devaient être similaires à ceux du reste du pays. C'est un sentiment, c'est assez partagé effectivement en fonction de là où on regarde, hein. Si on est vraiment autour de la métropole lilloise, on va pas forcément retrouver ce genre d'aspiration, mais on va beaucoup plus les retrouver, oui, dans ces territoires qui ont justement le sentiment d'être un peu abandonnés. Et puis il y a aussi la proximité, nous ici, directe avec la Belgique, avec les autres pays, où ce sont des choses qui entrent aussi justement en ligne de compte. On est proche, alors géographiquement, mais aussi un peu dans l'esprit, justement des institutions européennes et belges, notamment Bruxelles, qui est pas très très loin. C'est vrai que ça fait partie aussi de la région, du coup.
Merci beaucoup, Bastien de Seninck de France Bleu Nord. On part à Nîmes avec Sylvie Duchesne. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors, le référendum d'initiative citoyenne, autour de vous, on en parle. Qu'est-ce qui se dit à ce sujet ?
Eh bien écoutez, pour la première fois hier, j'ai reçu à la radio, à France Bleu Gard-Lozère, deux gilets jaunes, mais qui se voulaient les porte-parole d'autres gilets jaunes qui se sont constitués sur certains barrages. Pas tous, parce que ici, le mouvement est complètement séparé, il n'y a pas de structuration encore dans le mouvement. Mais ces deux gilets jaunes venaient pour dire, bon bah voilà, nous avons décidé d'aller à la rencontre des autres gilets jaunes qui sont sur les barrages pour leur proposer ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Ils veulent absolument les 4 points du référendum d'initiative citoyenne. En clair, ils veulent à la fois proposer des lois, ils veulent aussi en abroger certaines, ils veulent aussi demander le départ d'un responsable politique s'ils estiment qu'il a failli, ou encore demander, et ça ils m'ont dit que ça sera beaucoup plus compliqué, plus long, la modification de la Constitution, carrément.
Et cela donc est une demande forte, ça va aussi avec un constat plus général, moins politique, peut-être plus économique, sur la situation du Gard, puisque vous êtes à France Bleu Nîmes, Sylvie Duchesne.
Oui, effectivement, ici, ce qui pose problème, mais les organismes consulaires du département lancent depuis quelques jours un appel au secours, tout simplement parce que ici, les barrages, de nombreux barrages, notamment à Nîmes, autour de zones industrielles et de plateformes logistiques d'Auchan, notamment, sont bloquants pour les poids lourds. Donc, il n'y a plus aucune matière première qui rentre, il n'y a plus aucun produit fini qui sort. C'est le cas, notamment, à Nîmes, avec les produits secs d'Auchan qui servent à alimenter absolument toutes les grandes surfaces d'un grand quart sud-est de la France. Et hier, le patron de la plateforme logistique d'Auchan a été obligé de mettre au chômage partiel 450 salariés dans cette unique zone, hein, à Nîmes. Ah oui. Il y a carrément 2600 salariés. Ça ne concerne pas que Nîmes. Alès est également très perturbé depuis le début du mouvement. Les entrées de ville sont bloquées depuis un mois. Vous imaginez.
Depuis un mois, ça veut dire qu'il y a effectivement.
Depuis un mois. Les barrages, quelquefois, sont les gilets jaunes sont délogés par les CRS. Ils reviennent 2 heures plus tard. Ça a été le cas aussi devant Royal Canin à la sortie d'un des péages de l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier. Royal Canin a été obligé aussi d'avoir recours à du chômage partiel dès le début du mouvement, tout simplement parce que les matières premières ne pouvaient plus rentrer. Et donc, certains chefs d'entreprise aujourd'hui disent il faut absolument faire quelque chose. Il faut débloquer les barrages. Mais le problème, c'est que les forces de l'ordre sont mobilisés un tout petit peu partout en France depuis le début du mouvement, et que le préfet, quand il a des CRS ou des gendarmes mobiles, les fait intervenir sur des barrages, mais les gilets jaunes reviennent 2 heures plus tard.
Et donc aujourd'hui, la situation n'est pas du tout débloquée. Vous voyez une issue
absolument
possible,
pas.
Sylvie Duchesne ?
Bien.
C'est compliqué d'aujourd'hui. Vous n'avez pas de boule de cristal à France Bleu.
Non, moi, non, j'en ai pas non plus. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, par exemple, il y a encore une douzaine de barrages à travers tout le département. Alors, je vous parlais de Nîmes et d'Alès, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a aussi des barrages dans le rural, des villages où.
Où ça
Saint-Hippolyte-du-Fort, les Mages, bon, c'est dans les Cévennes, Beaucaire, Tarascon, par exemple, il y a des barrages. Alors, ce sont des gilets jaunes qui vont travailler dans la journée et puis qui, le soir, reviennent. Pour certains, ils passent la nuit et ils sont bien décidés à rester là tant qu'ils n'auront pas été entendus. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette initiative de ces fameux gilets jaunes qui sont venus hier pour tenter de structurer un petit peu le mouvement et d'aller au-devant de leurs camarades pour demander qu'ils adhèrent à ce fameux RIC. Moi, je n'ai absolument aucune vision à long terme sur le mouvement. Impossible de le dire.
J'ai l'impression que personne n'en a effectivement aujourd'hui. Merci beaucoup. Sylvie Duchesne, je rappelle que vous étiez en direct de France Bleu Nîmes. On n'a vraiment pas de boule de cristal. On peut éclairer le passé quand même, en partie grâce à vous, Gérald Andrieux, puisque quand vous étiez à la rencontre du peuple de la frontière, vous sentiez cette colère. Aujourd'hui, qu'est-ce que le politique pourrait faire pour tenter de comprendre, d'éteindre peut-être cette protestation, selon vous ?
Tout le problème est là, en fait. Pour avoir participé à un débat avec Jean-Louis Bourlange, honorable parlementaire MoDem, il explique que c'est pas qu'ils n'entendent pas ces gens-là, mais c'est qu'ils ne savent pas quoi leur répondre, en quelque sorte. Et on voit bien que les réponses qui ont été faites par la majorité actuelle, c'est quelques bouts de ficelle. Mais il y a sans doute...
Qui coûtent cher, malgré tout.
Qui coûtent cher, effectivement. C'est plusieurs... C'est de la grosse ficelle. Mais ce que réclament les Gilets jaunes, il faut peut-être être attentif et pas prendre ça avec dédain ou mépris. C'est quand même un changement structurel, y compris institutionnel, une démocratie un peu
donc
plus
pas
directe.
Pas seulement de l'argent, c'est ce que vous voulez dire.
Pas seulement de l'argent, c'est important. Le point de départ de ce mouvement, c'est le pouvoir d'achat, on en est tous d'accord, mais on sent bien que le malaise est bien plus profond. Et ce malaise est présent dans le pays depuis une trentaine d'années, et on fait semblant de le découvrir que maintenant. C'est ça qui est désolant.